Cette deuxième conférence nous ouvre donc à la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aborde une réponse à deux questions qui m'ont été posées. La première, vous avez dit qu'on ne s'adresse pas de la même façon à Dieu quand on prie le Père, le Fils ou l'Esprit Saint. Expliquez-nous. Bien, effectivement, vous savez, on pourrait apprendre la prière, apprendre à prier, en usant de cinq mots qui sont des moyens mnémotechniques pour se souvenir. Ce sont les cinq formules de politesse: bonjour, pardon, bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, au revoir. La première attitude dans la prière, c'est de dire bonjour. À qui je dis bonjour? C'est-à-dire, en présence de qui je suis en prière? Qui je veux prier? Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Le Père est la source de toute chose. Il est le principe sans origine. Le Fils et l'Esprit Saint nous sont connus par leur mission respective. La mission du Fils, c'est de nous sauver. La mission du Fils, c'est la rédemption de l'homme. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et sa grande mission, c'est de révéler le Père, de révéler l'amour du Père, et de nous conduire à lui. Et il nous conduit vers le Père par sa passion et par sa résurrection, en prenant sur lui le péché, en accomplissant toute justice, même bien plus que toute justice, en nous délivrant du péché et en nous conduisant vers le Père. Et la mission de l'Esprit Saint, on le dit dans le Credo, peut-être qu'un jour je ferai un cours sur le Credo, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie surnaturelle. La mission du Saint-Esprit dans l'Église, dans le monde, en chacune de nos âmes, c'est une mission de sanctification. Et donc vous voyez, votre prière, quand vous l'adressez au Père, vous l'adressez à celui qui est le Créateur de toute chose, le principe de toute chose. Et vous êtes dans une relation de filiation. Abba, Père, un mot très familier. Vous vous retrouvez dans cette relation la plus fondamentale et la plus intime de votre être, d'être un enfant bien-aimé. Alors bien sûr, vous ne pouvez dire « Abba, Père » que parce que l'Esprit Saint est en vous. Et que cet Esprit Saint a été répandu en vos cœurs, et que vous l'avez en vous parce que le Christ vous l'a donné. Mais néanmoins, vous vous tournez vers le Père et vous lui dites les mots les plus simples, celui qu'un enfant peut dire. On apprend à parler à son Père. Quand vous parlez, quand vous priez l'Esprit Saint, vous priez celui qui est le Rédempteur du monde, celui qui vous sauve du péché, celui qui vous conduit vers le Père, qui me voit, voit le Père, celui qui peut vous purifier, celui qui a institué l'Église pour que l'Église puisse rendre Jésus présent dans le monde par les sacrements. Donc, vos demandes au Christ, ce sont des demandes qui s'adressent à celui qui vous sauve, au Rédempteur. Si vous voulez, si vous dites « Seigneur, sauve-moi du péché, apprends-moi à vivre, à... je sais que c'est toi qui me sauve, qui me délivre », vous vous adressez au Christ. Et quand vous vous adressez à l'Esprit-Saint, vous vous adressez à celui qui est le sanctificateur, qui veut répandre ses dons en vous, les sept dons du Saint-Esprit. On va les voir au fur et à mesure du Notre Père, parce que vous allez voir qu'il y a une correspondance entre les sept demandes du Notre Père et les sept dons de l'Esprit-Saint. C'est très beau de découvrir ça, la correspondance entre chaque demande et les dons de l'Esprit-Saint. Donc vous demandez au Seigneur de répandre en vous les dons de l'Esprit-Saint, de vous sanctifier, de faire de vous des témoins audacieux de la foi. La personne qui est confirmée, confirmée dans la foi, elle est appelée à témoigner du Christ, un peu comme le chevalier Bayard, vous voyez, sans peur et sans reproche. Sans reproche, je ne sais pas, en tout cas, de moins en moins, et de moins en moins de peur. Vous voyez, quand vous vous tournez vers le Seigneur, faites ce petit exercice au début de votre prière. Mon Père, je me tourne vers toi parce que je suis ton enfant bien-aimé. Et je reçois de toi la certitude d'être aimé. Je suis comme un petit enfant contre sa mère, dit le psaume 130. Quand vous vous tournez vers le Seigneur, vers le Christ, vous dites, Seigneur, voilà, je suis là et je suis pécheur, mais je sais que c'est grâce à toi, grâce au don de ta vie, grâce à ta passion et ta résurrection, à ton incarnation déjà, que je suis sauvé. Je te rends grâce pour le salut que nous trouvons en toi par ta passion et ta résurrection. Quand vous vous adressez à l'Esprit-Saint, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Première question. La deuxième question, c'était quand on dit notre Père, pourquoi notre Père ? Et je vous donne ici un petit passage. En invoquant Dieu comme Père, nous signifions par là notre origine. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais d'un amour. Et en disant notre Père, la première chose que nous professons et dont nous cherchons à saisir de plus en plus le mystère, c'est l'incroyable amour dont nous sommes l'objet. Nous sommes fils, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes réellement, dit Saint Jean. Et je ne l'ai pas ici, voilà, comme notre Père, vous voyez. Nous disons notre Père et pas simplement mon Père. D'abord, pour bien distinguer deux types de filiation. La filiation de Jésus, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le seul qui soit le Fils de Dieu par nature. Il est le seul qui puisse dire « mon Père ». Ne nolite me tangere, ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Va dire à mes frères que maintenant je monte vers mon Père et votre Père, il distingue. Donc, nous ne sommes pas fils par nature, nous ne sommes pas de nature divine. Nous sommes fils adoptifs. Nous avons été adoptés par Dieu dans le Fils unique. Donc vous voyez, nous ne disons pas « mon Père » comme si nous étions engendrés par lui. Nous disons « notre Père » parce que nous sommes adoptés par lui et que tous, par le Fils, nous avons ce lien que le Christ veut établir, un lien de fraternité entre nous. La deuxième raison pour laquelle nous disons « notre Père » c'est que librement nous accueillons la grâce de Dieu, et parce que nous sommes tous des fils adoptifs, nous sommes appelés à dire tous ensemble notre Père. C'est pour ça que la prière du Notre Père est éminemment une prière ecclésiale. Je ne peux pas oublier mon voisin, ma voisine, celui qui a lui-même été, par son baptême, adopté par le Seigneur, ou qui est appelé à cela. Notre prière est vraiment catholique, et c'est pour ça que nous disons « notre Père ». C'est pour manifester la catholicité de notre prière, c'est-à-dire l'universalité du salut. Dès que nous disons le « notre Père », avec sincérité, dit le cardinal Journet. Dès que nous disons le Notre Père sans penser à personne, en pensant simplement à Dieu, mais que je dis Notre Père, dès que je prononce ces mots-là, eh bien, ce sont tous mes frères humains contemporains avec leurs souffrances que je prends dans ma prière, que je rassemble dans ce « notre ». Vous voyez, je déborde les limites de ma personne. C'est pour ça que c'est très important de dire « notre Père ». Notre prière est catholique, universelle. Que ton nom soit sanctifié. Voici la première demande. Et c'est pour cela que j'ai voulu mettre comme première, un petit peu phrase en tête, une citation de Sainte Thérèse d'Avila, une fois de plus, qui s'adresse à ses filles. « Je veux, mes filles, que vous ayez de grands désirs. » C'est dans la vie, dans sa vie, la vie par elle-même, au chapitre 13. Et il faut comprendre tout de suite que quand nous disons... Alors, voyez l'exercice que nous faisons. Hein, toute cette semaine, je vous invite à méditer sur cette première demande. Que ton nom soit sanctifié. Nous allons essayer de l'habiter, cette demande, de la comprendre. Et nous avons besoin de saisir que c'est vraiment la première de toutes les demandes, la première chose que nous avons à demander. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Saint Thomas d'Aquin nous apprend que dans la prière du Notre Père, nous demandons les meilleures choses dans le meilleur ordre possible. Nous demandons les meilleures choses dans le meilleur ordre. Alors, vous voyez, nous devons redécouvrir que cette première demande est la plus fondamentale parce que, finalement, elle contient toutes les autres. C'est la première de toutes les relations que nous entretenons avec Dieu. C'est vraiment ce que Dieu, en premier, veut pour nous. Il veut que nous puissions dire cette demande, que nous désirions que son nom soit sanctifié. Alors, bien sûr, dans le Notre Père, on peut considérer deux types d'ordre, si vous voulez, entre les demandes. On peut considérer un ordre descendant. C'est-à-dire que on commence par ce qu'il y a de plus haut. Mais c'est tellement haut cette demande, voyez, Seigneur, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Nous ne voyons pas très bien ce que ça veut dire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, c'est ce qu'il y a de plus lumineux, la sanctification du nom divin. Et plus nous récitons notre Père, plus nous allons vers le plus ténébreux. Délivre-nous du mal. Vous voyez, nous allons du plus lumineux au plus ténébreux. Mais nous savons bien que pourquoi nous avons besoin de commencer par cette première demande, que ton nom soit sanctifié. C'est précisément parce que nous sommes délivrés du mal par la sainteté même de Dieu. C'est vraiment la demande la plus haute. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, qui chante le Sanctus? Ce sont les anges, les séraphins, ceux qui s'occupent du trône céleste, qui sont les plus près de Dieu. Ils chantent trois fois saint. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Ce que l'on redit au moment de la messe. Et je vous assure que quand vous le chantez, le Sanctus, il faut savoir, il faut découvrir qu'à la messe, là où il y a Jésus, tout le ciel est là, toute la cour céleste est là. Et quand vous chantez, quand on chante avec nos pauvres voix le Sanctus, sur une mélodie qui nous paraît plus ou moins adaptée, et quand on chante le Sanctus, et toute la cour céleste chante le Sanctus, c'est pas nous qui l'avons inventé. Nous nous associons avec nos pauvres mots à ce qui se passe dans le ciel. Nous sommes associés à cette louange éternelle des anges qui chantent la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment la demande la plus haute, voyez, mais qui contient toutes les autres. Reconnaître la sainteté du nom de Dieu, c'est tout ordonner à lui. Toutes les autres demandes que nous lui faisons en raison de cette sainteté que nous lui reconnaissons. Alors bien sûr, nous ne demandons pas des choses pour nous là, quoique, c'est sûr. Et c'est vrai, je vous l'ai dit la dernière fois avec un petit peu, une façon un peu vive si vous voulez. Est-ce que nous devons commencer à prier le Seigneur en disant, Seigneur, vraiment, vous voyez, Seigneur, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment mal au genou, tu peux faire quelque chose? Bien sûr, toutes nos demandes sont légitimes. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Toutes nos demandes sont légitimes. Mais si le Seigneur nous a appris le Notre Père, c'est pour que nous apprenions à réordonner ces demandes. Et à comprendre que, bien, peut-être qu'avant de demander au Seigneur des choses pour moi, il faut quand même que je rentre dans la première demande, la plus fondamentale de toutes, Seigneur, que ton nom, c'est quand même Dieu que vous priez. C'est quand même Dieu. Donc il ne s'agit pas de commencer à demander des choses pour moi. Ça viendra. Mais il faut d'abord que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire il faut d'abord que la vie contemplative descende sur la terre. L'expression est du cardinal Journet, elle est très belle. Il faut que son nom soit sanctifié, que la vie contemplative descende sur la terre. Et tout s'enchaîne, vous voyez, parce que si son nom de Père est sanctifié dans les cœurs, alors ça veut dire que son règne arrive. Si son règne arrive, eh bien, c'est sa volonté qui est faite. Et alors, nous avons en nous de quoi ne pas mourir de faim. Notre vie spirituelle ne meurt pas de faim. Si nous avons le pain, celui dont nous avons le plus besoin, le pain de Dieu, la vie divine, alors c'est qu'il nous pardonne nos fautes. Et que nous ayant pardonné, alors il ne nous laisse plus retomber. Vous voyez, tout l'enchaînement du pater d'une seule coulée. Donc le désir, notre désir doit commencer par ce qu'il y a de plus haut. Je veux que vous ayez de grands désirs. Donc nous voyons ici un ordre descendant. Mais on pourrait penser aussi à un ordre ascendant. C'est celui que vous trouverez d'une façon assez étonnante dans le petit livre du cardinal Journet, hein, le Notre Père. Alors on en a mis quelques exemplaires là des trois livres, un du cardinal Journet, un du cardinal Barbarin et un de saint Thomas d'Aquin. J'ai quand même pas mis le catéchisme de l'Église catholique, tu vois. Ça je pense quand même que... Mais c'est le cardinal Barbarin, pardon, qui construit sa réflexion sur le Notre Père en voyant que ça répond à chaque demande est couplée par deux. Le centre, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Mais il fait comme une progression ascendante. Et effectivement, si nous demandons au Seigneur de commencer par la dernière demande, « Délivre-nous du mal », pour que nous ne soyons pas sans cesse soumis à la tentation. Mais si nous demandons au Seigneur d'être délivré du mal, c'est précisément pour que nous puissions sanctifier son nom. Ce n'est pas simplement pour se dire « Enfin, ça y est, je suis parfait, je suis parfaite ». Ce n'est pas pour se mirer d'une façon narcissique et égoïste dans son miroir en disant « Mon miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Si nous voulons être délivrés du mal, mais c'est pour nous tourner davantage vers Dieu. Parce que nous savons qu'en étant délivrés du mal, nous sanctifions le nom de Dieu par notre vie. Alors voilà, si vous voulez, au terme de cette première réflexion, vous voyez, c'est vraiment la première de toutes les demandes. Je redis ici le catéchisme de l'Église catholique. Cette demande-là, la première, nous est enseignée par Jésus comme un optatif, une demande, un désir, une attente où Dieu et l'homme sont engagés. Dès la première demande à notre Père, nous sommes plongés dans le mystère intime de sa divinité. Il nous fait entrer dans son nom, dans son être. Et nous sommes plongés aussi dans le drame du salut de notre humanité, parce que nous savons que nous avons du mal à sanctifier le nom de Dieu. Lui demander que son nom soit sanctifié nous implique dans le dessein bienveillant qu'il avait formé par avance pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. C'est toute la très belle hymne de saint Paul aux Éphésiens. C'est Éphésiens 1, chapitre 1, versets 3 à 14. Cet hymne est remarquable. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. C'est magnifique. Sainte Élisabeth de la Trinité, voilà encore une carmélite, il y a toute une méditation, toute une retraite qu'elle a faite sur Éphésiens, l'hymne aux Éphésiens. C'est de toute beauté. Ça vous donne une ferveur et une ardeur extraordinaires. Parce qu'elle a très très bien vu, elle avait l'intuition de notre finalité surnaturelle, de notre vie surnaturelle. Nous sommes faits pour être des louanges de gloire, disait-elle. Elle le répétait sans cesse. Nous sommes faits pour être des louanges de gloire. Un jour nous verrons Dieu et nous ferons, dans l'éternité, nous ne ferons que chanter sa gloire. Et bien voilà, nous sanctifierons le nom de Dieu. Vous voyez, le premier et le plus grand des désirs. Que ma vie puisse chanter la gloire de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que tout va bien. Il faut bien comprendre cette demande. Alors nous allons, si vous voulez, entrer maintenant dans l'analyse de cette demande. Que disons-nous quand nous disons « Notre Père, que ton nom soit sanctifié ». Il faut déjà s'interroger sur le mot « saint », « sainteté », « sanctifié », « sanctification ». Que signifie le mot « saint », « sainteté », « sanctifié » ? Le mot « saint », alors là, je reviens à saint Thomas d'Aquin. Le mot « saint » a trois significations. « Saint » désigne d'abord ce qui est stable. L'être le plus stable, c'est Dieu. Dieu est sans aucun changement. De toute éternité, il est. Et il est ce qu'il est. Le changement, c'est toujours un signe d'imperfection. C'est le signe des êtres naturels, de ce qui est soumis à la corruption, à la naissance, à la génération, à la corruption. Mais Dieu, lui, ne connaît ni génération, ni corruption. Dans son être, il est ce qu'il est. Pur, au-delà de tout changement, dans un présent éternel. Mais ce qui est stable aussi, vous voyez, c'est l'être qui participe de cette stabilité de Dieu. C'est-à-dire les saints au firmament, les saints dans le ciel. On dit que les saints sont au firmament, firmamentum, firmum, stable, ça veut dire stable. Alors, voyez, vous pouvez dire tout de suite une chose, c'est que le nom de Dieu est sanctifié en nous lorsque nous sommes attachés de façon stable à la volonté de Dieu. Il y a des personnes comme ça qui connaissent cette stabilité foncière, les saints en particulier, qui ont connu cette stabilité de volonté. Une volonté unie à Dieu dans tous les événements, dans toutes les épreuves. Leur cœur est dans la paix. Pensez à ces saints qui ne sont peut-être pas tous canonisés, peut-être béatifiés, qui au milieu des pires épreuves, je pense à l'abbé Stock, vous voyez, dans les camps de concentration, voyez, qui reste dans une paix et qui répandent cette paix dans les lieux les plus ténébreux, parce qu'ils sont dans cette stabilité de l'amour divin, de l'union divine. Un chartreux, c'est ce qu'il cherche, la stabilité la plus profonde, la sainteté. Saint désigne aussi ce qui est céleste, contrairement à ce qui est terrestre, ce qui est entaché par le péché, ce qui est pécheur, si vous voulez. C'est vrai que la terre, vous relisez le prologue de Saint Jean, la terre est dans les ténèbres par rapport à la lumière. La lumière est venue dans le monde. Le Verbe était la lumière du monde, la lumière des hommes. Il devait y avoir quelque chose d'extrêmement frappant à rencontrer le Christ, là, s'approcher de vous, poser sur vous son regard, et de sentir qu'émanait de sa personne une sainteté, une lumière, voyez, par rapport à laquelle on se sent extrêmement pécheur, extrêmement pauvre. C'est le grand moment, le grand mystère de la transfiguration, où Pierre, Jacques et Jean sont saisi par cette lumière qui, au moment où le voile de l'humanité du Christ se déchire un peu, ils sont saisis et ils veulent rester dans cette lumière, dans cette sainteté. Ils éprouvent de la joie, ils éprouvent une sorte de paix surnaturelle. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est pas pour rien que le Saint-Pierre a dit ça. Je pense qu'on aurait dit la même chose. Dressons trois tentes. Il veut que ça continue, si vous voulez. Parce qu'il entrevoit cet aspect céleste. Et alors, il y a un troisième sens du mot sainteté qui est inhabituel, auquel on ne pense pas du tout, et qui est tiré de l'Apocalypse. Saint désigne teinté de sang. Apocalypse 1, 15. Jésus qui nous a aimés nous a lavés de nos péchés par son sang. Et Apocalypse 7, 14 surtout. Ceux qui sont revêtus des robes blanches sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Teinté de sang, pas de n'importe quel sang, du sang de l'agneau. Purifié par le sang du Christ. Voilà ce que veut dire saint. Quand saint Paul s'adresse aux communautés de l'Église, il s'adresse aux saints des différentes églises. Vous, les saints qui êtes à Antioche. Vous, les saints qui êtes à Éphèse. Ça ne veut pas dire forcément que les membres de l'Église là, étaient tous canonisables ou canonisés. Mais ça veut dire que saint Paul voyait, dans son regard surnaturel, que les baptisés sont passés par, avec le Christ, ils sont morts avec le Christ et ils sont nés à une vie nouvelle. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et nous qui avons été baptisés, nous avons revêtu le Christ. Et nous avons été lavés de tout péché par le sang du Christ. L'Église, c'est dans ce sens-là que l'Église, si elle est composée de pécheurs, elle est quand même sainte, parce qu'elle vit de l'agneau, immolé, égorgé, celui qui a donné sa vie pour l'Église, pour la rendre sainte et sans tache. Éphésiens 5. Voilà ce que signifie le mot sainteté, la stabilité, ce qui est céleste, ce qui est teinté de sang, purifié par le sang du Christ. Alors, de fait, deuxième question, pourquoi le nom de Dieu doit-il être sanctifié? Alors, un petit mot sur le nom. Appeler quelqu'un par son nom, c'est avoir un pouvoir sur lui. Arthur, tu pourrais répondre quand je t'appelle. Voilà. Tu vas te faire appeler Arthur. C'est-à-dire, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je dis le nom, j'ai un pouvoir. Je désigne l'être. Vous voyez Adam, chapitre 2 de la Genèse. Le Seigneur fit défiler devant lui tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles, et il donna à chacun un nom. C'est-à-dire que Adam manifeste par là qu'il est appelé à dominer la création. Il domine, il gouverne, il maîtrise, il donne un nom. Il connaît par leur nom. Le Seigneur nous connaît par notre nom. Je te connais par ton nom. Dans l'Apocalypse, les élus reçoivent un caillou blanc sur lequel est marqué un nom nouveau. Mais par contre, l'homme, lui, ne peut pas, dans l'Ancien Testament, ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu est imprononçable. Quand Dieu se manifeste à Moïse, Il fait une périphrase. Tu m'envoies vers mes frères, mais qui es-tu? Que dirais-je à mes frères? Je suis celui qui est. La stabilité même, parfaite. Je suis celui qui est. C'est pas un nom, ça. Je suis. Et après, on dira le Seigneur, on dira Dieu, mais Dieu, c'est pas un nom. C'est pas le nom propre. C'est un terme qui désigne cet être qui est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Vous aurez le tétragramme imprononçable. Yud e vav e. Je suis celui qui est. Et on ne peut pas appeler Dieu par son nom parce que nous n'avons pas de pouvoir sur lui. Donner le nom, c'est une marque d'autorité. Et c'est en particulier la marque d'autorité du Père. Quand l'ange se révèle à Saint Joseph, il dit « Tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est l'autorité du Père de donner un nom. Alors le nom de Dieu, c'est le Fils qui nous le révèle, c'est Jésus qui nous révèle le nom de Dieu. Et déjà par son nom propre à lui, Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Dieu est sauveur. C'est même pas encore son nom propre. Emmanuel, Dieu avec nous, cet être au-delà de tout, transcendant, distinct de sa création, vient parmi nous. Jésus Emmanuel, Dieu sauveur, Dieu avec nous. Et il le dira à ses disciples. Mais qui me voit, voit le Père. Le meilleur nom qu'on puisse donner à Dieu, c'est Père. Et c'est ce nom de Père qui nous est demandé de sanctifier. Jésus a sanctifié le nom de Dieu par toute sa vie. Jean 17, 6 et Jean 17, 16. Père, je t'ai glorifié. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Le Christ reste dans la sanctification du nom. Et sur la croix, dans le combat qu'il mène contre le mal, il sanctifie encore le nom du Père par sa fidélité, par la fidélité de son amour. Et il est délivré par le Père. Une voix se fit entendre du ciel, « Je l'ai glorifié, voici mon Fils bien-aimé, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Jésus, c'est la gloire du Père, la manifestation du Père, le révélateur du Père, de Dieu comme Père, Dieu comme miséricorde et amour. Voilà le nom de Dieu, miséricorde, amour. Que peut-on dire de ce nom? Alors pourquoi ce nom doit-il être sanctifié? Parce que ce nom de Père de miséricorde, de Père d'amour, est admirable. Marc 16, 17. Tout ce qu'il fait est admirable. Vous voyez, les gens sont étonnés par ce que fait Jésus. Tout ce qu'il fait est admirable. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Deuxième raison, le nom de Dieu est aimable. Acte 4, 12. C'est par le nom de Dieu que l'homme peut être sauvé. Le nom de Dieu est aimable parce que il nous sauve. Vous aimez celui qui vous sauve. Vous êtes reconnaissant, mais c'est plus que de la reconnaissance, puisque il vous sauve en vous donnant la vie. Le nom de Dieu est vénérable. Philippiens 2:10. Très bel hymne aux Philippiens. Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens 2, 10. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers. Et enfin, quatrième raison pour laquelle le nom de Dieu peut être sanctifié, c'est parce que ce nom est inexprimable. Aucune langue n'est capable de dire ce qu'est Dieu parfaitement. Et vous savez, il y a dans la Bible des tas de noms pour dire quelque chose de Dieu. Dieu est mon rocher, Dieu est feu, Dieu est lumière, Dieu est source vive, Dieu est fraîcheur, Dieu est ma puissance. Vous voyez ? Et donc, aucun mot humain n'exprimera totalement ce qu'est Dieu, parce que par lui-même il est saint, il est la sainteté parfaite. Alors, reste une question quand même, deux questions. En quoi cette demande qui nous semble si haute, qui convient à l'activité angélique de ceux qui sont au-delà de ce combat dans lequel nous sommes, des ténèbres, de la lumière et des ténèbres, et qui chantent sans cesse devant la face de Dieu, Saint, 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 trois fois Saint. Cette demande est-elle pour nous? Est-ce qu'elle nous convient? De quelle manière nous convient-elle? Eh bien, permettez-moi de citer à nouveau Saint Augustin. Saint Augustin, dans la lettre à Proba, qui est la lettre sur la prière, le commentaire sur le Notre Père, dit ceci. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est nous-mêmes que nous exhortons à désirer que son nom, le nom de Dieu, qui est toujours saint, il est toujours saint, eh bien nous exhortons à désirer que son nom soit tenu pour saint chez les hommes. Chez les hommes. C'est-à-dire qu'il ne soit pas méprisé. Ce qui profite aux hommes et pas seulement à Dieu. En fait, nous avons à nous poser cette question cette semaine. Notre vie sanctifie-t-elle suffisamment le nom de Dieu? Et c'est vraiment notre première demande. Celle de la sainteté de notre vie dans notre état actuel, là où nous en sommes aujourd'hui, avec nos peines et nos misères, nos désirs, nos joies, nos rencontres, dans tout ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? C'est la première chose que nous demandons presque sans le savoir et que notre Seigneur veut que nous demandions. C'est en nous que son nom doit être sanctifié. Et vous comprenez bien que nous ne demandons pas moins que la sainteté. Il y a beaucoup de gens qui vous disent quelquefois, oh, mon père, vous savez, la sainteté, c'est que pour les autres. Mais madame, monsieur, et vous dites votre Notre Père quand même. Vous dites, à chaque fois, vous dites que ton nom soit sanctifié. Mais c'est en vous que vous le demandez. C'est pour vous que votre vie sanctifie le nom de Dieu. Que vous participiez de cette sainteté. Que vous participiez de cet amour, que vous participiez de cette puissance. Nous ne demandons pas moins que la sainteté dans cette première demande, pour que Dieu soit connu en nous et que son nom soit sanctifié. Que son nom soit en nous manifesté et par nous proclamé. En nous manifesté et par nous proclamé. Nous avons été, comme je vous l'ai dit, sanctifiés déjà par les eaux du baptême. Dieu nous a fait connaître son nom dans le Christ, nous connaissons sa sainteté et nous vous désirons en vivre. Le catéchisme de l'Église catholique dit la chose suivante, nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu. Mais nous demandons que ce nom de Dieu soit sanctifié en nous par notre vie. Car si nous vivons bien, le nom divin est béni. Mais si nous vivons mal, il est blasphémé selon la parole de l'apôtre. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Nous prions donc pour mériter d'avoir en nos âmes autant de sainteté qu'est saint le nom de Dieu. Et enfin, je vous avais dit que nous allons essayer de mettre en lien chaque demande de l'Esprit, chaque demande du Notre Père avec un don de l'Esprit Saint. Alors vous comprenez qu'avec une telle demande, qui est la plus haute, la plus importante, convient le don de crainte du Seigneur. Alors, là, peut-être que je ferai un cours sur les sept dons de l'Esprit Saint, parce que ça vaut le coup quand même, ça mérite d'être... Le don de crainte, on a du mal avec ce mot-là, la crainte. On a du mal parce que souvent, dans les générations les plus anciennes, on disait, on nous a appris que dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu de la crainte, tremblement, châtiment, tourment, mensonge, oui. Et que le Dieu du Nouveau Testament, enfin, c'est un Dieu d'amour. On ne sait même plus quel amour, d'ailleurs. Vous voyez ? Non. Non, il n'y a pas cette dichotomie. Ça, vous savez que c'est une hérésie. Hein. C'est l'hérésie de... Ah, son nom m'échappe. Hérésie de Marcion, le martionnisme, qui distingue quasiment entre deux dieux, finalement. Un Dieu méchant, l'Ancien Testament, et un Dieu bon, le Nouveau Testament. Mais ça veut dire qu'on n'a pas lu la Bible. Parce que quand vous lisez Isaïe, le dernier chapitre d'Isaïe, quand vous lisez le livre d'Osée, c'est magnifique. C'est vraiment les paroles de Dieu. « Ma fiancée, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Le psaume 130... etc., etc. Mais vous avez des paroles d'une tendresse extraordinaire, dès la Genèse d'ailleurs. Le Seigneur se promenait dans le jardin à la brise du soir. Exode 33, 11. Moïse entrait dans la tente de la rencontre et là, il priait le Seigneur et le Seigneur parlait à Moïse comme un ami parle à son ami. C'est quand même pas le Dieu du tourment et des méchants. Il faut faire très très attention à ça. Alors qu'est-ce qu'on entend par le don de crainte ? Le don de crainte, vous voyez, nous met devant la sainteté de Dieu. Il n'est pas nous, il est transcendant, il est bien au-delà de nous, mais il nous met devant l'amour infini de Dieu. Et cet amour infini peut nous impressionner, peut nous mettre presque à terre, si vous voulez. Un amour d'une telle puissance, on se sent comme brûlé par cet amour. Et donc cet amour infini va nourrir en nous l'abandon et l'adoration. L'adoration fait croître en nous le don de crainte. Et vous savez qu'en même temps, l'abandon et l'adoration, hein, faire attention à ne pas non plus il faut faire attention à ne pas dire ce que Sainte Thérèse n'a pas dit. Hein. L'abandon, l'adoration sont caractérisés par l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance, c'est pas de la mièvrerie, hein. C'est pas ça du tout. C'est vraiment le don de crainte du Seigneur. Et en même temps, le don de crainte, vous voyez, il va nous fortifier dans la maîtrise de soi face au péché. Non pas par peur d'un châtiment. C'est pas ça. Ça, c'est la crainte très imparfaite. Il nous fortifie dans la maîtrise de nous-mêmes face au péché par crainte de blesser l'amour de Dieu, de blesser cet amour infini. Vous voyez, le don de crainte n'est pas ce que l'on croit. Le don de crainte nous donne le sens de la sainteté de Dieu et donc nous dispose à l'humilité, à l'adoration. Et vous savez que c'est le début de la sagesse. Lisez le début du livre de la sagesse ou des proverbes. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Servez le Seigneur avec crainte et tressaillez de bonheur en tremblant devant lui. Voyez comment la Bible, ça c'est le psaume 2, verset 11. Comment la Bible essaie de concilier ce qui est inconciliable. Servez le Seigneur avec crainte, mais tressaillez de bonheur en tremblant. Tressaillez de bonheur en tremblant devant lui. Ben oui, parce qu'on est saisi par cet amour infini. Et on voit tout de suite nos limites, si vous voulez. Donc on craint de blesser cet amour, c'est ça la crainte. Il y a trois sources donc de la crainte de Dieu. La première, c'est que la crainte divine, comme don de l'Esprit Saint, naît en nous lorsque nous considérons la sublimité de la puissance divine. Alors là, je vous donne simplement les références bibliques parce que je n'ai pas la Bible avec moi. C'est Jérémie, chapitre 10, versets 6 et 7. Vous irez lire. La crainte divine naît en nous lorsque nous considérons la sublimité de la puissance divine. Je répète, Jérémie 10, 6, 7. La sublimité de la puissance divine. La deuxième source de la crainte, c'est quand nous considérons sa sagesse. Habacuc, livre d'Habacuc, si vous ne saviez pas qu'il existait, ben voilà, vous faites une découverte. Habacuc 3, 2. Le Seigneur a fait tout avec ordre, poids et mesure. Il a tout fait avec sagesse. Et ça peut nous remplir d'une certaine crainte, admiration, craintive. Et troisième point aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, c'est que la source de la crainte de Dieu, elle vient lorsque nous considérons aussi, il faut le dire, la sévérité divine. Jérémie 17, chapitre 17, verset 4. Vous savez, quand le Seigneur s'est mis en colère dans le temple, quand le Seigneur s'est mis en colère dans le temple. Alors, ça, c'est Jérémie 17, 4. Le Seigneur s'est fait un fouet de cordes, a renversé les tables des changeurs et a certainement élevé la voix. J'aurais pas aimé être là, quand même. Et regarde, dans la synagogue de Capharnaüm, quand il veut faire une guérison d'un homme à la main desséchée, et que là, il voit bien le regard des pharisiens, des scribes, qui l'épient pour voir si il va faire un miracle le jour du sabbat, afin qu'on puisse enfin l'accuser. Il voit ça, il saisit ça. Et que dit l'évangile de saint Marc ? Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Quand vous lisez le chapitre 25 ou 24 ou 21 de saint Matthieu, le jugement dernier, vous regardez ce polyptyque de Van der Weyden, les hospices de Beaune, avec ce Christ qui trône sur cet arc-en-ciel et que à ses pieds il y a l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes, et que vous êtes là devant un tableau saisissant, admirable, pour faire naître la crainte. Mais la crainte, non pas une crainte négative, une crainte très positive. Vous voyez, il ne s'agit pas de nous jeter dans l'épouvante. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de nous jeter dans l'épouvante et la terreur devant la majesté infinie de Dieu. Le don de crainte nous fait comprendre que nous devons tout à la miséricorde divine. Il ne s'agit pas d'une crainte servile, mais au contraire, d'un stimulant à persévérer dans le bien. pour ne pas contrister Dieu et en l'aimant ne pas avoir peur de son jugement. Saint Jacques, alors là j'ai plus les références, Saint Jacques qui dit « Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, le jugement est redoutable et celui-là peut craindre, mais la miséricorde se moque du jugement. Celui qui a fait miséricorde se moque du jugement. » Parce que par toute sa vie, il a exercé ce don de la crainte. Il a craint de blesser l'amour de Dieu. Alors il y a une très très belle petite histoire de saint Augustin. Et je vais terminer par là. Saint Augustin, pour lui, il montre bien ces deux formes de crainte. Deux femmes mariées, commence bien, dont l'une est adultère et l'autre veut être fidèle à son mari. Crains-tu ton mari ? Chacune répond, je le crains. Le mot est le même, mais le sentiment est différent. Celle-là dit, je crains que mon mari ne vienne et me trouve. Celle-ci dit, je crains que mon mari ne s'en aille. Parce que je ne l'aime pas assez. Celle-là dit, je crains d'être condamné. L'autre dit, je crains d'être abandonné. Mets cela dans le cœur des chrétiens et tu trouves cette crainte adultère que chasse l'amour et cette autre crainte chaste qui demeure à jamais. C'est magnifique. En un exemple, tout est dit. C'est autre chose de craindre Dieu par peur qu'il ne t'envoie en enfer avec le diable, mais c'est autre chose de craindre Dieu par peur qu'il ne se retire de toi. Cette crainte par laquelle tu crains qu'il ne t'envoie en enfer avec le diable n'est pas encore chaste, car elle ne vient pas de l'amour de Dieu, mais de la crainte de la peine. Voyez ? Si vous craignez Dieu parce que vous avez peur de lui, ce n'est pas le don de crainte. Si vous craignez Dieu parce que vous redoutez de blesser son amour, que vous dites « mais je ne l'aime pas assez, que puis-je faire pour l'aimer encore ?» alors vous vivez de ce don de la crainte. La vraie crainte de Dieu vient de l'amour que nous avons pour lui, donné par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a été répandu en nos cœurs et en nous il fait son œuvre. Et plus nous cherchons à l'aimer, et plus en nous son nom est sanctifié. À la semaine prochaine.